RCF.
Lucile Gomez, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Oui, bonjour.
Alors, sur votre profil Instagram, on peut lire Lucile Gomez et Mephisto Félix, illustration et BD, maternage, féminisme, freelancisme, créativité, vocabularial, c'est presque du Claude Ponty, et pour l'accouchement respecté. Alors, votre livre, La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs, qui vient de paraître aux éditions Mama et dont nous allons parler ensemble aujourd'hui, est un immense message d'amour aux femmes pour leur dire qu'elles savent accoucher et que les bébés savent naître. Vous avez ressenti le besoin de dessiner et de mettre en mots, et vous faites l'une et l'autre chose avec brio. L'idée selon laquelle la grossesse n'est pas une maladie, arguant que c'est une chose que les femmes savent, mais qu'elles ne savent pas qu'elles savent. Et vous nous embarquez dans ce premier tome d'une trilogie intitulée « La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs ». Alors ma première question, Lucile Gomez, sera « Comment avez-vous pris connaissance de vos super pouvoirs ?»
Oh là là, tout simplement, j'ai eu la chance de rencontrer une sage-femme pour ma première grossesse, qui m'a fait ce qu'on appelle qui m'a accompagnée, ça s'appelle l'accompagnement global. Elle m'a accompagnée pendant toute la grossesse et elle est venue le jour de l'accouchement. Et en fait, elle m'a donné des cours de préparation à la naissance. Et je me suis vraiment laissée porter complètement par ce qu'elle m'a appris et je ne suis pas allée chercher d'informations ailleurs. Je me suis complètement remis à elle et j'ai vécu un premier accouchement très très bien, dont je me suis sentie, après lequel je me suis sentie plus forte qu'avant en fait. Et c'est par la suite que j'ai réalisé que ce super pouvoir là que j'avais ressenti moi au moment de la naissance de mon premier bébé, la plupart de mes amis, mais aussi mes voisines, parfois les gens que je connaissais moins, l'avait pas du tout vécu de la même façon souvent. Souvent, les accouchements que j'avais vécu avaient été très différents. Et ça m'a beaucoup, beaucoup attristée. C'est là que je me suis dit quand même, j'ai eu la chance de découvrir mes super pouvoirs. Parce que c'est pas le cas pour tout le monde, en fait.
Alors, vous évoquez dans votre livre des lunettes que l'on enfile sans en avoir nécessairement conscience. Vous invitez le lecteur, la lectrice, à prendre conscience du fait qu'il ou elle porte des lunettes sur le bout de son nez et que celles-ci reflètent bien souvent les croyances de la culture environnante. Vous nommez ces lunettes les lunettes de la pathologie qui envisage la grossesse et la naissance comme un problème à régler. Lucile Gomez, avez-vous vous-même porté à un moment donné ces lunettes pour apprendre ensuite à les retirer et à les remplacer par d'autres? Comment ça passé?
Oui. En vérité, j'évolue dans le même monde que celui de la plupart de mes amis. Et avant de rencontrer ma sage-femme, j'avais quand même dans l'idée que ça allait être forcément douloureux d'accoucher, que ça allait être un peu affreux et que heureusement que le corps médical serait là pour me sortir de ce mauvais pas, en fait, en quelque sorte, me sortir d'affaire, quoi. J'avais vraiment cette idée-là. Et... bon, j'exagère à peine, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même l'habitude, je pense, quand on est une femme aujourd'hui en France, à avoir inconsciemment ou consciemment l'idée que notre corps n'est pas tout à fait au point. C'est-à-dire qu'on devrait toujours être mieux que ce qu'on est. On est quand même le sexe faible. Quand on lit des magazines féminins, souvent, alors ça tend peut-être à changer, mais on reste très très lent. On nous dit qu'on a comment enlever nos poils, comment enlever notre cellulite, comment avoir l'air d'avoir plus de poitrine ou au contraire moins. Enfin voilà, on a vraiment dans l'idée que notre corps il est pas parfait, quoi. On nous apprend à rééquilibrer notre silhouette avec nos vêtements. Sous-entendu que sans nos vêtements, on n'est pas équilibré. Et ça, je trouve que ça trouve son paroxysme au moment de la naissance. C'est-à-dire qu'on se dit vraiment, tu enfanteras dans la douleur. On a vraiment l'idée que c'est forcément dans un lieu très, très médicalisé, avec une horde de gens compétents, plus compétents que nous, pour accoucher, quoi. Donc, ces lunettes de la pathologie, elles sont normales à porter pour les équipes médicales, parce que c'est à eux qu'on s'en remet pour tout ce qui peut mal tourner. La pathologie, c'est quand le corps ne fonctionne pas bien, en fait, quand il y a des problèmes. Mais dans la très très grande majorité des cas, une grossesse n'est pas pathologique en fait. Et ça, on l'oublie beaucoup. On l'oublie, et même les équipes encadrantes qui sont là le jour de l'accouchement des femmes ne sont pas formées à ce qui se passe dans le corps des femmes quand ils fonctionnent bien en fait. Très souvent, ils ont oublié comment fonctionnait le corps quand il n'y avait pas de pathologie. Donc on prévient la pathologie, mais à trop la prévenir, on en provoque parfois. Et ma sage-femme, elle, avait fait des formations spécifiques auxquelles n'ont pas accès toutes les sages-femmes. Il faut qu'elles en fassent vraiment la démarche pour la physiologie, pour savoir comment ça fonctionne, comment ça fonctionne bien. Et une fois qu'on a cette connaissance-là, on peut l'accompagner beaucoup mieux, on peut la soutenir et faire en sorte que ça se passe encore mieux. Voilà, donc moi, il a fallu que j'en passe par elle. Enfin, j'ai eu la chance de la rencontrer. J'avoue que même au départ, quand j'ai appris qu'elle faisait des accouchements dans des salles complètement démédicalisées, etc., j'avais moi-même les lunettes de la pathologie, ce que j'appelle les lunettes de la pathologie, mais qui sont en fin de compte déformées, parce que quand on n'est pas médecin, c'est la lunette de la flip, en fait. C'est l'idée qu'accoucher, c'est forcément de la souffrance. Et quand je l'ai rencontrée, j'avais quelques réticences. Je me disais, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle va m'accueillir avec un sol en terre battue et des clochettes dans les cheveux? Enfin, voilà, je m'attendais un peu à un espèce de cliché. J'ai eu affaire avec un chien en qui je pouvais avoir confiance directement, quoi. Elle avait l'air complètement à savoir ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait. Et j'ai pu enlever ses lunettes de la pathologie parce que je sentais qu'elle avait des connaissances solides, qu'elle avait accompagné beaucoup de femmes. Et elle m'a mis les lunettes de ce que j'appelle les lunettes de la physiologie dans le livre, c'est-à-dire les lunettes de la connaissance sur le corps quand il fonctionne bien et qui sont en fait les lunettes de la confiance.
Alors, ce que je voudrais partager avec nos auditeurs, tout d'abord, c'est que c'est un livre extrêmement joyeux et que je l'ai lu avec ma plus jeune fille qui est née dans une piscine d'accouchement à la maison en partageant de très nombreux éclats de rire et que c'est un livre qui fait énormément de bien au moral en tant que femme, en tant que mère, en tant que petite fille qui grandit. Que d'apprendre qu'on a des super pouvoirs ou de voir quelqu'un qui écrit un livre sur ces super pouvoirs que l'on a rencontrés. C'est bon de savoir que le mot circule.
Ouais. C'est un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire, c'est que la transmission se fasse et que je sache dans ma joie. Alors là, c'est parfait pour moi.
Alors, votre texte et vos dessins sont très parlants. Vous écrivez: ta voisine, ton cousin, tes amis, ainsi qu'en témoigne aussi la culture populaire à travers films, histoires, livres, séries, tout un chacun n'ayant plus ni les connaissances ni l'expérience de la physiologie, a eu sa vision déformée. Les lunettes de la pathologie restaient bloquées à une époque où les femmes vivaient des grossesses multiples dans des conditions de vie déplorables, ont finalement eu un effet grossissant. Et vous écrivez: les lunettes de la pathologie se sont transformées en lunettes de la grosse flip. Vous l'avez évoqué, mais c'est intéressant, je trouve, que vous utilisiez votre expérience et votre talent au niveau des mots et au niveau des dessins pour parler de cela. Vous racontez un peu les mêmes choses que Michel Audan, mais vous n'avez pas le même style et c'est intéressant de varier les styles pour toucher différents publics ou de différentes manières vers le même public.
Mais oui, c'est pour ça que j'ai mis longtemps avant de me décider à me lancer à faire ce livre. C'est que je me disais, non, mais en vérité, les infos, elles existent déjà par des gens qui ont plus de légitimité que moi à le faire. Michel Audan, il sait vraiment de quoi il parle. Il n'a pas accouché deux fois, mais il a vu accoucher beaucoup de femmes autour. Après, je me suis dit quand même, moi, j'ai mon expérience de femme, donc j'ai accouché. Et surtout, j'ai ce truc du dessin qui fait que ça rend plus accessible parfois un savoir qui peut parfois être un peu intimidant quand c'est dans un livre avec un peu du texte. Et donc un des compliments qui me fait aussi très plaisir, c'est quand, enfin un des constats qui me met en joie, c'est quand certaines femmes m'écrivent pour me dire: ah, ce livre super, je l'ai passé à mon mari ou au papa ou à mon compagnon. Et les hommes qui parfois ont du mal à s'intéresser à ce sujet-là, le fait que ce soit de la bande dessinée, ça le rend plus accessible. Le fait qu'il y ait un peu des plaisanteries, que ce soit rigolo. Et ça, je trouve ça vraiment chouette aussi, quoi, que ça circule, que l'information circule aussi en dehors des femmes enceintes, mais aussi pour les papas. C'est le pouvoir du dessin, ça.
Exactement. Un grand merci, Lucille Gomez. Alors, on écoute maintenant Bob Dylan, Blowing in the Wind. À tout de suite.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Nous sommes avec Lucille Gomez pour parler avec elle de son livre « La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs ». Lucille Gomez, on vient de parler précédemment dans cette émission des lunettes de la flip. Et vous évoquez également d'autres lunettes, celles de la physiologie. Michel Audan évoque très souvent la physiologie dans ses écrits. Qu'est-ce que c'est la physiologie? Pourquoi est-ce si important de s'y référer? À quoi ça sert?
La physiologie, c'est tout simplement l'étude des êtres vivants quand ça fonctionne bien. En fait, je ne sais plus exactement dire de mémoire la définition du dictionnaire, mais enfin, c'est ça, quoi. Et c'est très important de bien connaître la physiologie. Donc, c'est la science qui traite du fonctionnement des êtres vivants. Parce que ça permet de réunir les conditions optimum pour que cette physiologie puisse s'opérer.
Alors Michel Audan parle énormément des sages-femmes comme accompagnantes clés du respect de cette physiologie. Oui. Qu'est-ce qui change quand on comprend que l'on est actrice de ce qui se passe quand on accouche, Lucille Gomez?
Oh, selon moi, beaucoup de choses changent parce que on a tendance à séparer le corps et l'esprit, peut-être particulièrement en France. C'est-à-dire, on se dit, si j'ai mal quelque part, c'est je vais soigner le symptôme, mais ça va être assez difficile dans notre culture de comprendre que parfois ce mal-là peut venir aussi d'un état de stress, d'un état émotionnel qui a fait surgir ces symptômes-là. Et dans l'accouchement, ça me semble très important de comprendre que quand on a vraiment l'idée qu'on va souffrir, que c'est un moment très difficile, que c'est ça nous met dans un état de stress, conscient ou pas. Hein, parfois, on se dit mais non, c'est bon, je stresse pas. Mais en vérité, on a aussi des peurs qui sont héritées. Parfois, quand on a entendu sa propre mère ou dire oh là, c'était affreux, ou au contraire ne rien dire, mais des choses qui passent sans même qu'on parle hein, de moments un peu traumatiques liés à l'accouchement. Bon, mais on hérite de ça aussi. Enfin, et ça peut ressurgir. Enfin, voilà, y a beaucoup de choses qui peuvent. Alors que quand on comprend qu'en fait on est c'est pas particulièrement dangereux, c'est pas particulièrement on n'est pas, enfin je veux dire, pas que ce soit pas bien de surveiller l'accouchement, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais on est capable de le faire quand on comprend comment fonctionne notre corps et que en fait je trouve que c'est hyper rassurant.
Merci Lucile Gomez. Alors vous parlez de lunettes de la confiance en la vie. Ce sont des lunettes que votre sage-femme vous a proposées?
Oui, après elle l'a pas présentée comme ça, hein, mais c'était tout ce qu'elle diffusait qui me donnait confiance en la vie. Elle m'a pas parlé de lunettes de la confiance. C'est quand j'ai me penchée sur la bande dessinée, je cherchais quelque chose de graphique et de simple. Et en repensant à elle, je me disais mais en fait c'est elle qui a changé ma vision sur l'accouchement. Avant j'avais une idée très comme on voit dans les films quoi. Et cette sage-femme m'a permis de voir les choses autrement.
Alors, vous revisitez tout d'abord l'utérus et les contractions et vous sortez à ce moment de votre livre la première carte super pouvoir. On a l'impression d'être dans un jeu car l'utérus est l'organe musculaire le plus fort de l'espèce humaine, écrivez-vous.
Oui. Ben, en fait, oui, je voulais en venir doucement aux différentes choses qui font qu'on peut avoir confiance en notre corps. Bon, déjà, l'utérus, c'est déjà un organe assez incroyable en lui-même, quoi.
Alors, vous distillez des informations importantes d'une façon décontractée, mais ça a son effet, ça fait son chemin. Vous faites la nuance tout d'abord entre le fait de ressentir les contractions de travail d'accouchement et la notion de douleur. En quoi est-ce important ?
Par exemple, je vais donner mon témoignage. J'avais tellement dans l'idée, malgré la rencontre avec cette sage-femme, j'étais quand même très très ancrée au plus profond de moi que accoucher ça faisait mal et que les contractions ça c'était atrocement douloureux. Ce qui fait que le jour de la naissance de mon bébé, j'ai attendu très longtemps en fait avant d'aller à la maternité. J'attendais d'avoir mal en fait. Et du coup, quand j'y suis allée, après, ça a été très précipité. Mais parce que j'avais vraiment dans l'idée que ça devait me faire mal. Le signe, c'était la douleur. Alors qu'en vérité, c'est pas le cas. Donc, c'est très important de se donner l'autorisation dans sa tête de ne pas avoir mal. Parce que peut-être qu'on aura mal. Hein. Certaines femmes, malgré tout, il y a quand même du stress. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On hérite de plein de choses et c'est quand même très difficile de s'extraire comme ça de centaines d'années de culture de la douleur de l'accouchement. Mais en vérité, les hormones qui rentrent en jeu pendant l'accouchement sont l'ocytocine, qui est l'hormone qui fait les contractions, qui les rend efficaces. C'est la même hormone qu'on a quand on a un orgasme, qui provoque aussi des contractions utérines lors de l'orgasme. Et cette hormone ne vient jamais seule, en fait. Le cytocine vient toujours accompagné de l'endorphine. Et l'endorphine, c'est de la morphine endogène, donc de la morphine qu'on sécrète soi-même, et qui vient apaiser la force des contractions et qui est un antidouleur, en fait, naturel. Donc, quand on sait ça et qu'on a eu, comme j'ai moi eu la chance d'avoir une préparation à la naissance qui nous apprend à respirer au moment des contractions, de les accueillir, etc. Bon, mais en fait, ça se met en place de façon à ce que ce soit pas une souffrance. Après, ça peut être hyper intense, Mais la douleur peut aussi être un guide lors de l'accouchement. Donc ça, j'en parlerai plus dans le tome 2, mais la douleur, au départ, elle n'est pas là juste pour faire souffrir les êtres humains. Quand on se coupe le doigt, c'est quand même bien qu'on ait un signal qui nous dit « Hé, enlève ton doigt, c'est en train de te le couper, quoi. » Bon, quand on a mal lors de l'accouchement, si on peut bouger, en général, on va chercher la position la plus confortable, et en général, la position la plus confortable va être celle qui aide le bébé à progresser dans le bassin. Donc, ce n'est pas forcément une souffrance abominable, mais ça peut être un guide aussi. Donc moi, j'avais tous ces éléments en main, et le jour de l'accouchement, je veux pas dire que j'ai eu mal, quoi. Je peux pas dire que j'ai rien senti, mais bon, voilà, j'ai eu beaucoup plus mal pendant mes règles que pendant mes accouchements, en fait.
Et le rendu graphique que vous apportez dans votre livre apporte une contribution notable dans la littérature sur l'ocytocine, les images et, en l'occurrence, les dessins aidant à comprendre plus clairement ce qui se joue dans le corps de la femme lorsqu'elle est en travail. Votre dessin reflète la puissance de ce phénomène.
Ah oui, alors bon, ça c'est ce que j'aime bien, c'est mon métier là, directement, oui. C'est utiliser la bande dessinée pour ce qu'elle a de particulier à la bande dessinée. Quand je parle d'une hormone qui éjecte, mon crayon va beaucoup plus vite sur le papier que quand je dessine l'hormone qui apaise. Là, tout d'un coup, le trait se fait plus souple. Et ça, je pense que ça parle directement. Alors peut-être que tout le monde n'est pas sensible à l'image de la même manière, mais enfin, c'est quand même immédiatement très parlant quand on arrive sur une double page et qu'on parle d'apaisement et que tout est apaisant dans l'image. C'est vraiment une façon pour moi de souligner mon propos, quoi. D'essayer de mettre le moins de mots finalement possible pour installer des ambiances, etc., pour que la lectrice ou le lecteur puisse directement comprendre, presque même par l'émotion avant même de le faire par le cerveau, quoi.
Un grand merci, Lucille Gomez. On se retrouve dans un instant.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid, manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac, faire mon service militaire, traverser la Manche au bouée, chatouiller une panthère, faire pipi sur un policier. Oh,
pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à
devenir magicien pour me faire disparaître, prier pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète.
Terminer mes choux Bruxelles,
manger des crayons de couleur
pour vomir un arc-en-ciel.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à
sans armes contre un gladiateur,
je serai prête à me battre,
imiter les cascadeurs,
espérer finir dans le plâtre,
avaler de sang limace pour effrayer les ascites,
faire sauter la salle de classe à la dynamite.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
Pour louper l'école,
je le ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
Pour moi c'est pire que le bagne. Et lorsqu'il eut inventé ce sacré Charlemagne, aurait dû rester couché.
Comptez pas sur moi les gars, c'est sympa mais c'est sans moi. Oui j'ai eu cette idée folle un jour d'éviter les gars.
On peut pas y aller, on peut pas rester couché. Faut les mains, faut de la pâte, la maîtresse en maille et pas.
Habiter dans les toilettes,
provoquer un ours en duel,
avaler une clarinette,
ou repeindre la tour Eiffel,
boire du coca périmé
pour attraper des boutons,
manger du beurre toute la journée,
finir aussi gros qu'un camion,
chanter du Lori en latin,
faire une sieste de 6 mois,
manger la pâté du chien,
apprendre l'annuaire en chinois,
ne respirer qu'une fois sur deux,
me laver à l'eau de Javel,
ne plus jamais cligner des yeux,
torturer le Père Noël.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école,
C'était Aldebert pour Louper l'école. Alors on retrouve Lucille Gomez et son livre La naissance en BD, Découvrez vos super pouvoirs, un livre paru aux éditions Mama. Lucille Gomez, il y a une chose que j'apprécie beaucoup dans votre livre, entre autres choses, vous l'aurez compris, c'est le fait que vous évoquiez en long, en large et en travers la bulle de la femme en travail. C'est vraiment capital de l'évoquer. Et puis, évidemment, le corollaire de cette bulle, c'est le fait de débrancher son néocortex. Et vous écrivez, le jour de la naissance, vous pouvez laisser votre néocortex dans le tiroir de votre table de chevet. Et vous en aurez besoin plus tard pour d'autres choses. Mais pour le moment, ce n'est pas ça qui va vous aider. C'est intéressant d'en parler en image parce que c'est souvent abstrait cette notion de néocortex, les différentes parties du cerveau. Et voilà, les images s'y prêtent vraiment très très bien.
Merci. Oui, c'est une notion, c'est peut-être la notion la plus importante à savoir pour la femme enceinte, mais également pour son entourage en fait. On est tellement habitué donc à porter ces lunettes de la slip là que. Parfois, quand une femme enceinte s'arrête de parler au moment où elle accueille, on pourrait dire une vague, même plus qu'une contraction, hein, pour pas connoter de manière trop négative ce qui lui arrive, parfois l'entourage a peur en fait de la voir s'isoler comme ça. Donc on a tendance à lui dire qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu parles plus, est-ce que t'as mal, est-ce que... et on s'imagine qu'elle sera forcément en souffrance quand elle fait ça, alors qu'en vérité vouloir absolument la ramener vers nous, c'est potentiellement la mettre en souffrance, parce que quand le processus de la naissance se met en route, ces hormones dont je parlais tout à l'heure, donc l'ocytocine et l'endorphine, sont sécrétées par une partie du cerveau, qui est la partie mammifère en fait du cerveau, et pas du tout par la partie analytique, les circonvolutions propres à l'intelligence humaine. Et donc trop solliciter la partie analytique, demander par exemple de chronométrer les contractions, de chercher le sac le sac pour aller à la maternité, chercher sa carte vitale et toutes ces parties-là. Tous ces éléments-là peuvent entraver le bon fonctionnement de sécrétion de ces hormones. Donc c'est très important, ouais, de préserver la bulle de la femme qui accouche, le fait qu'elle puisse progressivement se concentrer sur ce qui se passe dans son corps et débrancher le cerveau auquel on est si attaché, nous, êtres humains, notre cerveau. Voilà.
Mais cette bulle, elle se met déjà en place si on la laisse s'installer en fin de grossesse, finalement. On n'est pas obligé de répondre au téléphone, on n'est pas obligé de regarder ses emails, on peut déléguer pour être vraiment dans l'instant présent et dans son corps.
Oui, commencer une connexion aussi avec son bébé avant même qu'il arrive, en fait.
Mmh. Oui.
Donc, parce que son corps et son bébé, c'est... intimement lié à ce moment-là, donc pouvoir se recentrer sur ça. Après, c'est vrai qu'on a tendance à se mettre plein de pression sur tout ce qu'il faut faire et c'est à mon sens un peu dommage, même si je suis la première à rentrer dans ce jeu-là souvent, c'est dommage quand même, on va donner la vie à un petit individu, autorisons-nous le temps et l'espace pour le faire, quoi. C'est pas grave si tout n'est pas prêt d'un point de vue administratif ou je ne sais quoi.
Alors ce n'est pas forcément urgent de donner des nouvelles de l'avancement du travail sur les réseaux sociaux, par exemple. Et vous expliquez, soyez la chatte farouche ou la louve solitaire ou la panthère indomptable ou la petite taupe intrépide. Choisissez ce que vous voulez. Et puis vous expliquez, accoucher, ça ne s'apprend pas.
Mmh.
Mais,
mais
vous êtes capable de le faire, vous savez comment faire.
Mmh. Ça ne s'apprend pas, même on aurait plutôt tendance à devoir désapprendre. Mmh. En fait, c'est là tout le défi.
Qu'est-ce qu'il faut désapprendre, Lucille Gomez?
L'idée que c'est forcément... C'est-à-dire qu'on nous renseigne plus sur éventuellement ce qui pourrait mal se passer que sur comment ça fonctionne quand ça fonctionne bien. Même les sages-femmes qui sont détentrices du savoir sur la physiologie de manière historique l'ont un peu perdu, ce savoir, par moment. parce que dans leur formation, c'est très peu enseigné aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, à trop connaître ce qui peut mal se passer, on déforme vraiment cet événement qui peut aussi très bien se passer, quoi.
Alors, il est peut-être important de rappeler, par exemple, que pour les personnes qui accouchent à domicile, par exemple, les sages-femmes procèdent à une sélection et n'acceptent que les personnes pour qui la grossesse se passe très très bien. Et c'est quelque chose que le public ignore très souvent, mais en disant mais tu vas mourir, c'est extrêmement dangereux. Donc les sages-femmes, elles sont garantes de vérifier tout ce qui se passe pendant la grossesse. Et donc, quand on a un suivi de grossesse par une sage-femme comme vous l'avez eu, on a un suivi, je dirais, high-tech.
Ah oui, on est très rapprochés. En fait, moi, j'aimerais qu'on ne mette pas en opposition les progrès techniques et médicaux sur ce qui concerne la pathologie et la connaissance sur la physiologie. J'aimerais vraiment que les deux puissent au contraire jouer de concert, quoi. Ce serait pour moi l'idéal, c'est-à-dire que on est tout à fait capable de déceler plein de problèmes éventuels au long de la grossesse déjà, et puis même de les anticiper lors de l'accouchement. Et il y a des pays où on accouche à domicile sans aucun problème, parce que c'est organisé pour, en fait. Et en France, c'est pareil, on a tous les moyens techniques et les connaissances pour l'organiser pour, mais c'est plus compliqué parce que culturellement, on bloque, en fait. Un peu. Aujourd'hui, accoucher à domicile en France, c'est vraiment très, très compliqué. Pour des raisons d'organisation, quoi. On demande aux sages-femmes qui font ces accompagnements des assurances qui s'élèvent à 20 000 ou 25 000 euros par an, ce qui est en général pas le chiffre d'affaires qu'elles font. Ouais. Et donc, on ne donne pas un vrai choix aux femmes, en fait. Moi, c'est ça qui m'embête le plus. C'est qu'avec être mal informée, on ne nous donne pas un vrai choix. On nous dit, le choix, c'est avoir une péridurale ou ne pas en avoir 100, ou voilà. Ce qui est un peu absurde quand on n'a jamais accouché, de se dire bon, ben, est-ce que je vais avoir une péridurale ou est-ce que je vais pas en avoir? Pourquoi s'anesthésier si je suis même pas sûre de souffrir? Donc c'est quelque chose qui fait semblant qu'on a le choix. Pour moi, c'est juste nous donner un faux choix, quoi. Parce qu'après, les maternités sont de plus en plus éloignées des femmes qui accouchent. Parfois, elles ont 2 heures de transport pour aller dans la grosse maternité de leur région. Et à côté de ça, elles ne peuvent pas non plus avoir un accompagnement pour accoucher à domicile. Donc, voilà. Je pense que ce sont des sujets dont il est urgent de parler quand même, parce que ce sont clairement des sujets féministes, quoi, les sujets liés à la grossesse, à l'accouchement et à la maternité, quoi.
Et puis, ça concerne tout le monde parce que les conditions de naissance ont un impact important sur le bien-être physique et psychologique des êtres humains qui naissent, tout simplement.
Mais oui, je trouve que c'est tellement symptomatique le fait que on veuille calibrer à ce point les naissances. Ça veut dire que dès le début, un bébé, en tant qu'être humain, est déjà en retard.
Oui, c'est ça.
S'il ne naît pas avec sa maman qui dilate à 20 cm par heure, bon, ben, on a déjà l'idée que ce bébé est en retard si il dépasse le terme de quelques jours. Vous voyez, il y a un côté calibrage de l'être humain qui est quand même assez emblématique, je trouve, de tout ce qui nous attend après, par la suite, quand on est. Et puis tout à l'heure, vous parliez du fait que vous aviez lu le livre avec votre fille et que vous aviez ri et qu'elle était née dans un bassin, etc. Moi, je trouve aussi que quand j'en parle à mes enfants, j'ai l'impression qu'on est sortis en étant une équipe, quoi. Vraiment, le papa, le bébé et moi, enfin, c'est pas que moi qui me suis sentie super puissante, en fait. J'ai l'impression que, moi je le dis parfois, mais à mes bébés, on a fait une super équipe, quoi. Je voudrais pas transmettre l'idée qu'il y a une façon idéale d'accoucher et que si on n'a pas accouché dans un bassin ou si sans douleur ou avec péridurale, on a forcément tout raté. Au contraire, je voudrais vraiment signifier aux femmes autour de moi toute l'admiration que j'ai pour elles, parce que quelles que soient les conditions dans lesquelles elles accouchent, et parfois c'est pas optimum du point de vue du fonctionnement de leur corps et de la physiologie, on n'est pas toujours dans une maternité qui est bien au courant, qui nous accompagne comme il faut. Ben, malgré ça, je trouve que les femmes s'en sortent hyper bien, c'est-à-dire qu'elles s'en sortent vraiment hyper bien, elles arrivent à créer un lien avec leur bébé, elles arrivent à accoucher, à donner naissance, à être, elles sont très, très, très fortes. Elles sont peut-être même trop fortes, parce que si elles se rendaient compte, elles auraient, elles se seraient rebellées plus tôt. Maintenant, il est temps qu'on les accompagne mieux, je crois.
Un grand merci, Lucille Gomez. On écoute Yann Tiersen et Claire Pichet, Break Up. À tout de suite. Nous sommes avec Lucille Gomez pour évoquer avec elle son livre « La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs », un titre paru aux éditions Mama. Pourquoi cette chanson, Lucille Gomez?
Alors, c'était pas exactement celle-ci, mais celle-ci est très bien aussi. C'est l'album de Yann Tiersen. En fait, pour mon deuxième bébé, au moment où j'accueillais les vagues des contractions, je chantais. C'est quelque chose que j'ai fait assez spontanément, mais je sais que parfois, les mamans se préparent à la naissance avec du chant prénatal. Et notamment, je faisais chanson, donc cette chanson, un peu plus grave, et puis en yaourt, hein, parce que les paroles ne parlent pas trop de naissance. Mais voilà, j'accueillais les contractions avec voilà, en chantonnant ça sous ma douche.
Les contractions, ce sont des amis ou des ennemis, Lucille Gomez?
Ah, ça dépend quelles lunettes on porte.
Oui.
Les contractions sont des ennemis si elles nous crispent, qu'on les craint et qu'on est stressé. Sinon, ce sont des amis qui aident notre bébé à progresser dans le bassin, à descendre, qui aident notre bébé à naître, tout simplement. Donc, ce sont des amis. D'ailleurs, certains suggèrent de changer le mot contraction quand on est, parce que les mots ont aussi leur importance, et de dire les vagues, par exemple.
C'est poétique. Vous expliquez dans votre livre que le rapport à la douleur est une notion très personnelle et subjective. Et vous évoquez le fait que nous avons du mal à notre époque à entendre ce que dit la femme, qu'elle exprime douleur ou absence de douleur. Finalement, on a du mal à la croire.
Eh bien, en fait, il y a, je pense, tout un mélange de paramètres qui font qu'on n'écoute pas vraiment la femme et que parfois elle ne sait plus vraiment s'écouter elle-même. La douleur, déjà, c'est subjectif, quoi qu'il arrive. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il a mal, qu'il a tort ou raison d'avoir mal, ou que c'est vrai ou que c'est pas vrai. S'il le ressent comme ça, c'est que c'est le cas. Et ensuite, il y a quand même une culture de notre médecine qui était très masculine, hein, qui voyait le corps à travers des yeux d'hommes. L'universel, c'était le corps masculin. Et donc, la façon d'accueillir la douleur, parfois, semble vraiment étrangère pour les gens autour. C'est-à-dire quelqu'un qui crie ou qui s'isole dans sa bulle, on peut imaginer qu'elle souffre, alors qu'en vérité, s'isoler dans sa bulle ou crier, ça peut être des façons de faire quand on n'a pas mal, qu'on ne souffre pas, en fait.
Oui, vous évoquez dans votre livre que souffrir en accouchance n'est pas automatique. Et quand on affirme qu'on a bien vécu son accouchement sans péridurale, on est parfois taxé de courageuse, sacrificielle ou méritante. Or, il ne s'agit pas de ça.
Non, il ne s'agit pas de ça. Je pense vraiment qu'il faudrait qu'on se sente pas comparé, qu'on se sente pas en compétition. C'est un moment hyper singulier. On hérite de plein de choses qu'on ne maîtrise pas. On est dans un milieu qui n'est pas forcément le plus aidant. Voilà, il y a des tas de paramètres qui font que on n'a pas à se sentir jugé du vécu de l'autre ou de son vécu à soi. C'est se rajouter de la souffrance que de faire ça. Et c'est difficile de pas le faire parce qu'on est habitué à se comparer, etc. Hein, le monde entier fonctionne comme ça aujourd'hui, mais j'ai envie de croire qu'il y a quand même ce grand élan de sororité qui arrive en ce moment et dont il faut se servir pour se sentir plus forte.
Vous avez d'ailleurs choisi de clôturer cette émission avec une chanson d'Anne Sylvestre, Frangine, qui parle de sororité. C'est bien ça qu'il s'agit, se parler, communiquer, se refiler des informations cruciales et puis faire ses choix et suivre son chemin.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement dans cet état d'esprit que j'ai voulu faire ce livre. J'ai vraiment voulu le faire pour parler à mes amis, à ma frangine, transmettre l'information que j'ai eu la chance d'avoir pour qu'on se sorte tous, toutes plus fortes de grâce à la connaissance, quoi.
Vous abordez aussi les notions d'acquis et d'inné avec la culture dans laquelle on grandit. Là, vous évoquez très clairement, en prenant vraiment le temps, l'impact de la culture, mais aussi l'histoire familiale, et vous proposez un chemin singulier. On a le droit de se distancer de cette culture ambiante si on en fait le choix et de mettre ce que vous appelez dans votre bande dessinée les lunettes de la confiance et de la physiologie. On a le droit d'être connecté à soi et puis d'écouter ce qui est bon pour soi. Ça veut dire aussi s'orienter vers l'accompagnement avec lequel on se sent en sécurité, avec le lieu avec lequel on se sent en sécurité en espérant y avoir accès. C'est un chemin de reconnexion à soi également de faire toute cette évolution intérieure.
Oui, voilà, j'avais envie de proposer aux femmes de l'information pour qu'ensuite elles puissent, en fonction de là où elles en sont, choisir ce qui leur convient le mieux. Vraiment, j'ai pas une idée précise sur la façon dont les femmes doivent accoucher. Je trouve en revanche qu'il est hyper important qu'elles s'écoutent en fait et qu'elles s'écoutent pas avec des préjugés qui leur sont imposés de manière assez insidieuse depuis des siècles, mais qu'elles s'écoutent vraiment. Alors c'est facile à dire, hein, mais voilà, je donne quand même des petites pistes et puis je donne aussi le relais, c'est-à-dire que voilà. Pour certaines, l'hypnose va être vraiment quelque chose de très aidant, mais pour d'autres, ça va être l'idée d'accoucher dans un plateau technique à l'intérieur même d'une structure médicalisée, parce que être trop loin d'une structure médicalisée va leur faire peur, alors que d'autres auront plutôt envie d'avoir un accompagnement pour accoucher chez elles. J'aimerais vraiment redonner les clés pour que les femmes puissent faire de vrais choix et que ce soit pas oui, on vous a donné le choix avec ou sans péri, quoi. Pour moi, c'est pas une question qui a lieu d'être. Si on est en souffrance, oui, à la péri, mais essayons de faire en sorte de pas être en souffrance, quoi. Ce serait quand même mieux dès le départ.
Alors, vous écrivez que l'accouchement est un moment physique et symbolique. qu'il marque l'entrée dans la maternité, dans tout ce qu'elle a de plus mystérieux et d'intense. Vous avancez qu'accoucher fait partie des capacités féminines et que ce n'est pas nécessairement violent ou même dangereux. Le bonus incroyable de cette expérience étant la confiance que la femme prend en elle. Elle se découvre un nouveau visage.
Oui, bah, c'est-à-dire que vraiment quand on vit pleinement le moment de l'accouchement, qu'on en est actrice et qu'on n'a pas l'impression de subir, oui, on se découvre autrement. Et puis la naissance d'un bébé, comme je le dis dans le livre, c'est aussi la naissance d'une maman. Et je pense que c'est vraiment un cadeau à se faire que de se faire confiance ce jour-là, parce que ça nous donne symboliquement le droit de nous faire confiance ensuite pour l'élever, ce bébé. Et embrasser notre nouveau rôle de mère qui est vraiment pas évident et pour lequel on va être soumise à plein de doutes, mais le fait quand même d'être actrice de l'accouchement peut nous donner une impression de confiance en soi qui est hyper précieuse pour la suite.
Alors vous écrivez, pour la femme en travail, le temps n'est pas à l'action. Pendant le travail, action à laquelle l'adrénaline peut être utile quelquefois, et dans le cadre de la naissance, il s'agit au contraire de se laisser aller avec l'ocytocine et l'endorphine, choisir les lunettes de la confiance, un environnement qui nous convient, dans lequel on se trouve en sécurité, mettre l'enfant et la mère au centre de ce qui se joue est primordial. Vous remettez les choses à l'endroit dans votre livre, c'est ça qui est appréciable.
Oui, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire que le fait de mettre le bébé et la femme au centre de l'accouchement, ça paraît être une évidence, mais en fait, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc, pouvoir faire en sorte que la femme se sente en confiance, ça aide encore une fois à faire que ces hormones de l'accouchement, qui sont l'ocytocine et l'endorphine, arrivent de manière très spontanée. Et en revanche, trop éclairé, avoir des espaces inconnus et trop éclairés, etc., ça favorise l'adrénaline, qui est complètement contre-productive pour la sécrétion d'ocytocine et d'endorphine. Et donc souvent, quand on arrive à la maternité, on arrive dans un lieu très éclairé, avec des gens inconnus, etc., on a des contractions qui sont moins efficaces, et là, c'est l'avalanche d'interventions médicalisées qui font que ben, on se retrouve à souffrir, à être dans une position où il n'y a plus de mouvement, donc le bébé a plus de mal à progresser dans le bassin, donc enfin voilà, et c'est toute la physiologie qui est mise à mal dans ces conditions-là. Et donc, dans ce que je vais m'attacher à faire dans le tome 2, maintenant que j'ai expliqué tous ces processus dans le tome 1, ce sera vraiment de donner des pistes pour ramener de l'intimité dans des lieux qui sont pas forcément faits pour. Voilà, parfois c'est juste un coussin qui a l'odeur de chez soi. Parfois le père ou la personne qui accompagne peut avoir un rôle déterminant aussi pour recréer une ambiance d'intimité, pour respecter la bulle de la femme qui accouche. Voilà, c'est ce genre de choses que je trouve qu'il est important de transmettre aux femmes aujourd'hui.
Un grand merci, Lucile Gomez. Je rappelle le titre de votre livre, La naissance en BD. Donc, il s'agit du tome 1, on l'aura compris. Découvrez vos super pouvoirs. Un titre paru aux éditions Mama. Merci beaucoup, Lucile Gomez.
Mais merci à vous.
Et on écoute Anne-Sylvestre Frangine. Au revoir.
Au revoir.
Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre, douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. Coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche-neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. dessus dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, puis faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas le temps. C'est tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.